Savoir penser contre soi-même et ne jamais oublier d'où l'on parle. Voilà une double exigence précieuse dans l'exercice du journalisme. Ne pas oublier d'où l'on parle, c'est-à-dire reconnaître que le fait d'être, au hasard, une femme blanche de 36 ans n'est pas un détail dans la manière dont on aborde tel ou tel sujet. Mais n'est-ce pas un peu désespérant quand on quitte le champ du journalisme pour aborder celui de la création artistique ? La question se pose quand un acteur blanc joue le rôle d'un homme noir ou quand un personnage transgenre est interprété par quelqu'un qui n'est pas trans, par exemple. Faut-il y voir le début d'une forme de censure ? Censure, le mot est lâché, il pèse des tonnes et il fait pencher clairement la balance d'un côté du débat. Un peu comme l'expression politiquement correcte d'ailleurs. C'est une expression, comme l'a fait remarquer une de mes invitées la semaine dernière, qui disqualifie d'emblée l'adversaire. Pourquoi revient-elle seulement pour accuser les militants antiracistes ou féministes? Si l'art se fait l'écho de la diversité de la société, l'artiste peut-il encore parler au nom de tous? Vous réagissez en nous écrivant à la page du débat de midi sur notre site internet, via l'application France Inter ou sur Twitter. L'art est-il victime du politiquement correct? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Et j'accueille mes trois invités. Bonjour Isabelle Barberis.
Bonjour.
Maîtresse de conférence à l'Université Paris Diderot. Vous êtes spécialiste du théâtre contemporain et vous avez publié au PUF un livre intitulé « L'art du politiquement correct » dans lequel vous dénoncez, je cite, un nouvel académisme anticulturel qui est lié selon vous à la volonté de représenter la diversité. On va y revenir en détail bien sûr. Maboula Soumaoro est face à vous. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter.
Merci.
Maîtresse de conférence en littérature africaine à l'Université de Tours.
Alors, en études afro-américaines et américaines.
Merci pour la précision. En études afro-américaines. Fondatrice, j'espère ne pas me tromper, de l'association Black History Month.
Oui, ça c'est bon.
Que vous avez importé en France. C'est une tradition américaine.
Oui.
En quoi ça consiste le Black History Month? C'est à rendre hommage, à mettre en lumière des grandes figures noires de l'histoire.
Oui, enfin, de l'histoire et de la culture, de ce qu'on appelle, on peut l'utiliser au pluriel ou au singulier, le monde noir ou les mondes noirs. Donc un intérêt porté à des cultures qui sont souvent moins fréquemment représentées dans l'espace public.
Et mon troisième invité est commissaire d'exposition et critique d'art, Guillaume Desanges. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez piloté une exposition qu'on peut voir en ce moment à Saint-Nazaire, intitulée « Contre-vent », récit d'un épisode de l'histoire sociale de la région, c'est bien ça?
Absolument, oui. Des luttes, enfin des convergences ou des associations de lutte ouvrière, paysanne et étudiante dans l'ouest de la France.
Et vous étiez aussi le commissaire d'une expo qui a beaucoup fait réagir au Palais de Tokyo à Paris l'année dernière, celle de l'artiste contemporain Neil Belloufa. Alors j'aimerais d'abord vous faire réagir pour entrer dans le vif du sujet tous les trois, à une tempête dans un verre d'eau, comme on en voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Le personnage de la petite sirène, dans le film que préparent les studios Disney, va être interprété par une comédienne noire qui s'appelle Al Bailey. Certains s'en sont émus sur Internet en demandant peu ou prou pourquoi ne serait-ce pas grave de faire jouer la petite sirène qui est blanche dans le dessin animé par une noire, alors qu'on entend sans arrêt qu'un comédien noir qui joue un personnage blanc, ça ne se fait pas. Que répondez-vous à cela, Maboula Soumaoro?
Bah oui, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, mais ça
avec
montre
une sirène
bien.
En plus.
Avec une sirène. Donc là, on parle de sirène, on parle de fiction, et on est censé, encore une fois, c'est ce qu'on dit sur l'art, peut-être se déconnecter de la réalité, et on voit bien que la réalité bien terrestre ne n'échappe pas à certains. Donc oui, il y a eu des plaintes qui se sont élevées contre le choix de ce personnage. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas quel a été le véritable impact en termes de production et de la pièce qui va se jouer, enfin de la comédie musicale qui va se jouer. Mais les personnes qui ont essayé de contrer ce discours d'attaque se sont également amusées à faire le listing de tous les personnages blancs qui avaient joué des noirs. Et voilà, donc on pourrait dire tout simplement, enfin on ne peut pas s'émouvoir de tout, que c'est de bonne guerre. Enfin voilà, pourquoi une sirène noire? Pourquoi ça choque et pourquoi ça devient visible à ce moment à ce moment-là, alors qu'il n'a été que très rarement choquant ou la plainte a été très difficilement audible quand il s'est agi d'autres représentations.
Donc ça n'est pas de l'appropriation culturelle, pour employer cette expression qui va être importante aujourd'hui dans ce débat, et que vous pouvez peut-être définir d'abord.
Exactement. Donc l'appropriation culturelle, c'est vraiment une vision, c'est une analyse politique du domaine artistique et qui essaye de déceler les relations de pouvoir dans la création, mais aussi dans la les prestations publiques. C'est ça la question de l'appropriation culturelle. C'est pas qui joue quoi et comment. C'est qui joue quel rôle et quelle sera l'exposition à certaines pièces. Sinon, n'importe qui peut jouer n'importe quoi dans une cave.
Un exemple qu'on cite beaucoup, c'est Madonna qui se présente au MTV Music Awards habillée en tenue traditionnelle berbère.
Voilà.
Ça, pour vous, c'est clairement de l'appropriation culturelle ?
Alors, c'est de l'appropriation culturelle. Enfin, c'est la dimension politique qu'il faut, mettre en exergue quand on parle d'appropriation culturelle. C'est-à-dire que si Madonna se présente à une cérémonie et décide de faire un show où elle utilise des cultures qui ne sont pas les siennes, la question est quelles sont les retombées pour cette culture berbère dont
qu'est-ce
on parle.
Que ça rapporte aux berbères,
qu'est-ce que ça rapporte aux berbères,
trivialement.
Et qu'est-ce que ça rapporte à Madonna de passer pour une artiste ouverte qui utilise des cultures qui sont minorées. C'est ça la question. C'est pas seulement utiliser la culture berbère, c'est se faire, en gros, pour parler peut-être presque vulgairement, de l'argent sur le dos des berbères.
Alors, La Petite Sirène, avant d'être un dessin animé Disney, était un conte d'Andersen. Et c'est amusant parce que vous faites allusion dans votre livre, Isabelle Barbaris, au prologue de La Petite Sirène d'Andersen. Vous parlez de ce miroir qui transforme toutes les choses belles en choses hideuses. Que lui arrive-t-il à ce miroir ?
Le miroir se brise, en fait. Et donc, toute forme d'unité est perdue. Et bon, c'est une sorte de métaphore des phénomènes aujourd'hui de clivage et d'absence de cadre symbolique commun qui peut aussi s'exprimer à travers la culture. Pour revenir à cette affaire de la petite sirène que je ne connaissais pas, ça ne peut pas être de l'appropriation culturelle parce qu'être noir n'est pas une culture. C'est bien ça. On en arrive à des considérations. Voilà. Alors pour le coup, racialiser, être noir n'est pas une culture. Il y a une multitude, bien entendu, de cultures. Et par ailleurs, alors comme je ne connais absolument rien à cette affaire, je n'ai par exemple pas lu les déclarations d'intention des artistes. Il me semble que c'est une très bonne chose. Il y avait eu une polémique assez similaire autour de la Marianne en fait, et la question qu'une Marianne puisse être noire. Alors évidemment, enfin c'est pour moi ça semble évident, mais parfois les déclarations d'intention qui sont derrière ce type de démarche viennent en quelque sorte projeter un discours extrêmement racial et ergonomique, avec l'idée derrière qu'il faudrait que les représentations soient là pour changer nos mentalités, et donc cette manière un petit peu d'utiliser les représentations de manière invasive et de manière un peu agressive fait réagir aussi de manière agressive.
Et vos propos font réagir déjà nos autres invités. Je vous donne la parole à tous dans un instant. Émission préparée par Cyril Marchand et Camille Kaufmann, réalisée par Lola Costantini, Elisabeth Collet et Philippe Duclos à la technique.
Faux, ça n'est pas caché. 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 Ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, bah c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. C'est là, y
y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi.
Ça n'est pas caché.
Avalanche, c'était Batlick, Batlick exactement, sur France Inter, programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. Notre question du jour dans le débat de midi, l'art est-il victime du politiquement correct? On est avec le commissaire d'exposition Guillaume Desanges, avec Maboula Soumaoro, créatrice du Black History Month en France, et avec Isabelle Barberis qui publie l'art du politiquement correct au PUF. Alors vous avez dit à l'instant, Isabelle Barberis, que noir n'est pas une culture. Ça fait réagir nos invités. Guillaume Desanges.
Non, je trouve que c'est une réflexion intéressante parce que je crois qu'elle est au cœur de moi, ce qui m'intéresse plus que la question des éléments, comme vous avez dit, tempête dans un verre d'eau. Et c'est vrai que je suis marqué parce que vient de dire Isabelle Barberis, parce que noir n'est pas une culture. D'abord, je trouve que qui a le droit de dire que c'est pas une culture? Et je crois qu'il y a une différence entre les choses ressenties et les choses réelles. Et que je crois que toutes ces questions dont on parle d'appropriation culturelle remettent en cause aussi des modes de pensée. Et on voit bien une pensée plutôt universelle, universaliste, je dirais presque européenne, et puis d'autres types de pensées. Et j'aime bien parler de cette question qui me touche dans mon travail de commissaire, parce que moi-même, j'ai bougé sur ces questions. J'ai eu une expérience aux États-Unis en travaillant dans le South Side, quartier africain-américain de Chicago, avec Theaster Gates, qui est un artiste noir qui a travaillé sur ces questions-là, et notamment qui fait le Black Artist Retreat. Et c'est vrai que je me suis aperçu moi-même que la question n'était pas uniquement de se poser la question de dire est-ce que de manière globale, est-ce que c'est une culture ou pas. La question, c'est de savoir qui décide de ce qu'est une culture, et que c'est vrai qu'il y a des points de vue spécifiques et particuliers qu'on doit prendre en compte et qui remettent en cause, je crois, et là c'est, je vais appuyer dessus, c'est la grande question que je trouve moi passionnante aujourd'hui, ce qui remet en cause des hégémonies, des manières de penser dont on est les héritiers et que je crois il est intéressant d'interroger aujourd'hui.
Maboula Soumaoro, noir est une culture?
Oui, on parle de culture noire, on parle de musique noire, on parle de littérature
assez
noire.
Assez peu de musique blanche.
Assez peu de musique blanche parce que nul besoin de spécifier la musique et simplement musique, et elle est en fait en filigrane, elle est blanche, mais la on va dire ce qu'on appelle la blanchité est tellement puissante et tellement on va dire dominante qu'elle n'a pas besoin d'être nommée. C'est là si on s'intéresse à cette question de la blanchité. Donc tout ce qui devient visible, tout ce qui devient audible, tout ce qui devient même dérangeant, c'est toujours les éléments qui sont minorés, qui soient minorés au niveau racial, au niveau culturel, au niveau du genre, de la sexualité, c'est ça qui devient visible. L'hétérosexualité n'a pas besoin de se nommer. On dit pas un couple hétérosexuel, on dit un couple. Et quand on veut dire, on parle d'un couple homosexuel, c'est là qu'on ajoute l'adjectif.
Donc oui. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt se désoler de ça que...
Bien sûr, on peut se désoler de ça. C'est une bonne question. Je suis d'accord avec vous. On peut se désoler de ça, mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait?
Et de faire avec la réalité.
Voilà. En attendant que le monde évolue et en attendant qu'un couple puisse englober toutes les différentes façons de se mettre en couple, qu'est-ce qu'on fait en attendant?
Le débat de midi, Dorothée Barba.
Polémique autour d'une pièce de théâtre à la Sorbonne, représentation annulée ce lundi. Des photos de la représentation ont circulé sur Internet, dans lesquelles on voit des comédiennes blanches, le corps et le visage peints en noir. Tous jouaient une tragédie grecque, les suppliantes défilent. Et c'est ce choix de mise en scène qui a entraîné ça.
Nous sommes en direct de la Sorbonne, où une pièce de théâtre se déroule en ce moment même à l'intérieur. Une pièce de théâtre qui utilise des blackface.
Alors le blackface, c'est le fait pour un blanc de se grimer en noir avec une connotation raciste.
C'est une pratique née en Europe au XVIIe siècle, à l'époque de la colonisation et l'esclavage.
Comment un noir peut être représenté par un blanc, sinon par le maquillage ou par le masque?
On est venu à la Sorbonne, on a réussi à faire annuler le spectacle ce soir.
C'est un scandale! Un scandale!
Les suppliantes, pièce d'Eschyle, qui devait donc se jouer à la Sorbonne en mars dernier et qui a été annulée. Le metteur en scène Philippe Brunet était accusé de recourir à ce qu'on appelle le blackface. Plusieurs mois après, il me semble, à tête reposée, qu'il est intéressant de revenir sur cet épisode au regard de ce que vous dénoncez dans votre livre, Isabelle Barberis, l'art du politiquement correct. Comment avez-vous réagi à cette histoire?
Alors, Déjà, ce que je dénonce dans mon livre, j'aime pas trop le terme dénoncer, je préfère le terme quand même...
Souligner
et analyser. Pour reprendre ce que disait Guillaume Desanges, c'est précisément un système hégémonique. Et ce système hégémonique, c'est celui qui nous a conduit en quelques années à nous percevoir et à nous définir à nouveau à travers des critères biologiques, quels qu'ils soient, alors qu'auparavant, effectivement, les identités étaient de classe, elles étaient construites en termes de classe, donc classe paysanne, classe ouvrière, et donc c'était des minorités construites socialement. Donc ça c'est juste pour revenir sur la question de l'hégémonie. Sur la question des suppliantes, ce qui est assez intéressant, c'est l'espèce de mécanisme de surenchère dont cette affaire se fait le révélateur, et qui est un mécanisme de surenchère morale, en fait, ou j'ai même envie de dire moralisatrice, puisque les intentions de départ de Philippe Brunet étaient de diffuser la bonne parole, j'ai envie de dire, et donc de faire une sorte de démonstration antiraciste dans sa pièce de théâtre. Et à partir du moment où le propos de l'art se concentre sur des aspects moralisateurs, effectivement, il éveille en quelque sorte cette passion moralisatrice, et il trouve en face de lui encore plus antiraciste, j'ai envie de dire.
Ce que vous dites, c'est qu'il suffit de ne pas être, d'affirmer soi-même ne pas être raciste pour ne pas commettre d'actes racistes ?
Non, ce que je suis en train de dire, c'est que effectivement, il y a beaucoup de déclarations d'intention de ce type chez les artistes, et je conçois d'ailleurs parfaitement que cela puisse agacer des militants, ces phénomènes d'auto-déclaration, d'auto-affirmation.
Voilà le sens de mon travail.
Je ne suis pas raciste. Ça, je pense que c'est un point commun ici, que je partage avec.
Avec tout le monde. Maboula Soumaoro, il n'est pas inutile de rappeler que le blackface renvoie à l'histoire, hein, il renvoie à une pratique raciste.
Il renvoie, je ne sais plus combien de démonstrations ont été faites à ce sujet. Je pense notamment à Louis-Georges Tain et Le Cran qui ont écrit et ont essayé de diffuser des articles, on va dire, le blackface pour les nuls, pour rappeler les racines intrinsèquement racistes de cette pratique. Mais pour revenir à ce que vient de dire Madame Barberis, je ne pense pas qu'un système hégémonique puisse s'ériger et entrer en action en quelques années. C'est pas quelques années. Donc toute cette mouvance qu'on dénonce ou qu'on souligne pour utiliser des mots qui ont été prononcés, c'est pas en quelques années qu'on va avoir une sorte d'hégémonie antiraciste.
Donc il n'y a pas d'inversion du politiquement correct,
non, c'est ce que vous dites. Il ne peut pas avoir d'inversion parce que la notion du temps est primordiale dans ces considérations.
Donc il faudra des siècles d'hégémonie de votre modèle pour qu'on puisse parler d'hégémonie.
Exactement, il faudra des siècles, il faudra beaucoup de force et beaucoup de puissance, il faudra peut-être des armées, il faudra l'école, il faudra les arts. Donc c'est pas en 4 ans, en 5 ans ou même en 10 ans que se construit un système hégémonique, alors que le système hégémonique qui est remis en question par plusieurs mouvances antiracistes, lui, il existe depuis très longtemps. Et on ne peut pas avoir cette vision si limitée de l'histoire française qui se déclinerait uniquement dans la fabrication d'identités sociales, qu'elles soient paysannes, populaires. Il n'y a pas que la classe sociale. Et la classe sociale, elle apparaît très fortement dès qu'on sort de cet hexagone français. On oublie, on limite la France à l'hexagone, alors que la France se déploie aujourd'hui encore dans les Outre-mer actuels et les Outre-mer anciens. Et c'est vraiment cette histoire extra et hexagonale, française ou non française, ça dépend des moments historiques, qui nous amène à ces identités, à ces fabrications sociales qui vont au-delà de la classe sociale.
Mais pour en revenir à cette pièce d'Eschyle qui devait se jouer à la Sorbonne, beaucoup ont rappelé que le masque était au cœur de la tradition théâtrale. C'est pas un argument qui vous convainc, Mme
Blasoumaoro ? Non, parce qu'il ne s'agissait pas d'un masque, au départ. C'était pas des masques. C'était du maquillage et du maquillage noir. Je ne sais pas quoi dire à propos de cette, pour moi, de cette controverse qui est une controverse parmi d'autres et d'autres et d'autres sujets qui ne causent
pas. C'est récurrent et ça en dit long sur une époque.
Voilà, ça en dit long. Je sais pas, Madame Barberis, c'est plus spécialiste que moi sur la question de du théâtre, par exemple. Et je crois me souvenir qu'à un moment, est-ce que c'était à l'Antiquité, les femmes n'avaient pas accès à la.
Tout à fait.
Alors qu'est-ce que ça voulait dire pour un homme de jouer une femme? Donc c'est la même question, qu'est-ce que ça veut dire pour un blanc de jouer un noir ? Alors pourquoi on peut envisager ce questionnement quand il pose la question de la fabrication du genre et même de la prestation, de la performance, pour utiliser un anglicisme, désolé, du genre ? On joue une femme sans être une femme et en interdisant l'accès à la scène des femmes.
Finalement, c'est aussi une question trivialement d'emploi des comédiens noirs qui existent sur le marché.
C'est ce que ça soulève comme question. Mais on peut, au niveau du genre, on peut l'entendre. Au niveau du genre, on peut l'entendre. Au niveau de la race, parce que la race existe socialement, on ne peut pas l'entendre. Mais vraiment, pour moi, cet exemple est parlant du non-accès des femmes à la scène et du combat des femmes pour avoir accès à cette et se jouer elles-mêmes.
Isabelle Barberis.
Oui, oui. Bon, ce que dit Madame Soumaoro est juste. On peut faire des liens. Hein, je suis pas opposée à cela. Simplement, il faut quand même rappeler que il y avait effectivement les métèques, les barbares et les femmes n'avaient pas accès à la représentation athénienne que d'ailleurs souvent l'on considère comme une sorte de modèle démocratique. Donc on voit qu'il y avait effectivement des angles morts. Simplement, voilà, ce genre de parallèle peut être intéressant, mais à condition quand même de rappeler que dans notre pays, les Noirs ont une citoyenneté, précisément.
Donc, mais pas une citoyenneté de scène, non, Madame Barberis. À chaque fois, c'est toujours à ce moment-là qu'on n'est absolument pas d'accord. Madame Barberis, vous savez bien que dans les productions théâtrales de prestige...
Vous faites un paralogisme.
De prestige. Il y a moins de personnes non blanches sur les scènes. Vraiment,
je crois que Madame Barberis parle du droit de vote, du droit d'être
citoyen. Oui, bien sûr, mais la citoyenneté sur la scène, elle compte aussi.
Le regard de Guillaume Desanges m'intéresse sur cette histoire. Vous avez été choqué, vous, par l'annulation de ce spectacle à la Sorbonne?
Alors moi je vais pas essayer de pas parler de théâtre parce que encore une fois je suis avec deux universitaires donc je vais ni parler de théâtre ni d'hégémonie dans le milieu universitaire. Par contre, ce qui m'intéresse moi plus précisément c'est cette question l'histoire de blackface. Il y en a eu dans l'art contemporain. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, et c'est là où la période aujourd'hui je la trouve passionnante, jusqu'à maintenant disons il y avait deux côtés. Il y avait les méchants racistes, les vrais racistes qui l'affirmaient presque, il y avait dans des pratiques. Aujourd'hui la coupure elle est ailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on fait un artiste fait une œuvre, même avec les meilleures intentions du monde qui sont directement antiracistes, eh bien, il n'y a plus d'impunité là-dessus. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Susan Sontag qui parlait du luxe de l'empathie. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des nouvelles voix qui se font, entendre en disant, mais la question n'est pas uniquement d'avoir des bonnes intentions ou de parler pour nous avec toutes les bonnes intentions, et que c'est bien là où ça se passe. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus, toujours dans tous ces débats, parce qu'on ne va pas accuser les personnes de racistes comme une espèce de, voilà, vous êtes devenus racistes d'un seul coup. C'est les mêmes discours qui étaient avant. Sauf qu'à un moment, il y a des nouvelles voix qui se font entendre et qui remettent en cause aussi des visions qui peuvent parfois être un peu réductrices ou paternalistes ou etc. Et je trouve ça intéressant parce que je dirais que il n'y a plus d'impunité. L'art n'est plus une zone complètement fermée dans laquelle on serait gagnant-gagnant en étant à la fois du bon côté et en même temps du côté, on va dire, des gagnants et en même temps en ayant un bon discours. Et ça, c'est intéressant, même si on est tous, et moi aussi, capables de se faire à un moment attaquer sur ces choses-là. Et je trouve pas ça très intéressant.
Maboula Soumaoro, ne pas avoir d'intention raciste ne suffit pas à ne pas être raciste.
Exactement, puisque le racisme, c'est pas un
état. Ça peut être un peu désespérant.
C'est une action. C'est ce qu'on fait, c'est pas est-ce qu'un tel ou telle autre personne est raciste. C'est pas elle est raciste tous les jours au quotidien, c'est ce qu'elle fait, est-ce que c'est raciste. Et on ne peut pas se positionner en tant qu'anti-raciste et être en désaccord avec les personnes qu'on est censé défendre ou représenter. Ne serait-ce que par respect pour la voix des personnes dont on est censé porter les intérêts, ou je ne sais pas. Si on vous dit qu'il y a un problème, il faut l'écouter, il n'y a pas d'autre solution. Et vous ne pouvez pas vous dire, non, vous ne m'avez pas compris. Si justement, l'honnêteté est réelle dans votre intention, on peut se remettre en question et se dire ce que j'ai fait à ce moment-là est raciste et je ne m'en rends pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que le racisme fonctionne notamment sur, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'inaudibilité et l'invisibilité. Je ne savais pas, j'ai l'habitude, la tradition, les siècles, enfin tout me donne raison, je fais ce que je veux.
Et l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Aujourd'hui, peut-être que ce que me disait Monsieur Desanges nous amenait à réfléchir au fait que peut-être que les forces contestatrices sont plus importantes aujourd'hui, audibles. Et elles ont voix au chapitre. Sinon, je suppose qu'il y a énormément de films, de productions artistiques de tout genre qui ont été contestées, sauf que les personnes n'avaient pas un accès aussi grand pour faire savoir, pour faire entendre leur contestation. C'est tout.
Voilà qui nous conduit à un néologisme, un mot que vous avez inventé dans votre livre Isabelle Barbarisme. Pouvez-vous nous définir ce que vous appelez l'entanquisme?
Oui, c'est un néologisme, mais c'est un jeu de mots.
C'est joli, entanquisme.
C'est pas... C'est, 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 j'ai pas la prétention d'avoir là formulé un concept d'analyse, mais
ça mérite d'être assez clair. Expliquez-nous.
Bien effectivement, c'est la parole qui ne s'autorise que d'elle-même et qui revient à dire voilà, pour m'émanciper, je m'enferme dans mon essence, dans mon identité, hein, ce que souvent aussi...
Par exemple, je parle en tant que femme, en tant que blanche...
Norma Najjari du Parti des Indigènes de la République dit, voilà, c'est l'essentialisme stratégique...
Norma Najjari n'est pas membre et de...
Il est membre. Oui, il est membre.
Vous êtes sûr?
Oui, j'en suis certaine. Oui.
Donc l'œuvre n'a plus de valeur en dehors de l'appartenance de son créateur, qui est sommé de s'exprimer en tant que quelque chose et plus au nom de tous.
Oui, et alors on excède complètement ici le cadre des polémiques sur le décolonialisme, etc. Mais c'est véritablement un mouvement beaucoup plus vaste, hein. qui revient souvent au bout du compte à reproduire les clichés contre lesquels on voulait lutter au départ. Je suis aussi en accord avec ce que vous avez dit tous les deux sur la question du paternalisme, parce que avant, dans ce livre, d'analyser l'essentialisme de certains discours identitaires, la diversité telle qu'elle a été non pas définie, mais non définie par le ministère de la Culture, eh bien, souvent un concept extrêmement paternaliste qui revient à reproduire des figures de bons sauvages, donc extrêmement racistes et pavées, effectivement, de bonnes intentions. C'est pour ça que je nuance toujours mon discours en disant que je trouve inacceptable, effectivement, les réactions du CRAN et de la Ligue anti-négro à l'égard de la pièce de Philippe Brunet, mais que ce n'est pas pour autant que sa démarche elle-même ne peut pas être critiquée, passée au crible d'analyse critique.
Vous parlez également, je vous cite, d'une inquisition antiraciste qui désormais surveille le monde de la culture, les mots sont forts. Ouais. C'est une inquisition, Isabelle Barberis ?
Je pense véritablement que beaucoup d'artistes sont effrayés, enfin je le pense, je le sais aussi, par le... Il faut bien voir quand même que le monde de la culture est extrêmement précarisé sur le plan économique, que la pulvérisation des subventions aujourd'hui entraîne des systèmes de réseaux où pour arriver à produire une pièce, une œuvre, il faut vous entendre avec un réseau de 70 personnes environ, et que donc le capital image est d'autant plus important, et le capital image repose effectivement sur cette
sur le respect des minorités, de la diversité.
Sur ce discours, moi je réfléchis véritablement en termes de discours sur cet affichage discursif qui peut tout à fait occulter des véritables mécanismes d'oppression.
On va peut-être laisser l'inquisition antiraciste
se défendre. Oui, mais j'ai envie de dire, soyons quand même sérieux, Madame Barberis, l'inquisition, quand on pense à l'inquisition, encore une fois, on revient à ces notions de système et d'hégémonie. Si on parle d'inquisition, il faut parler de la force de ces tribunaux. Mm-hmm. qui ont mené des procès et qui ont mené de fausses enquêtes pour pouvoir condamner des personnes au nom du non-respect des préceptes chrétiens. L'institution, c'est ça l'inquisition.
Oui.
D'accord. Donc, quelles sont les institutions antiracistes qui auraient la puissance pour mettre à mal cette liberté de créer?
Je crois qu'elle parle des associations de lutte contre le racisme.
Quelle est la puissance d'une association et la puissance d'un tribunal? Mm-hmm. C'est ça que remettons les choses dans leur, dans leur contexte et dans leur élément politique, un tribunal et une association. Donc, que les associations arrivent à faire du bruit, parviennent à, interpeller les médias qui prêtent d'autant plus attention à ce qui se passe en ce moment. Très bien, et tant mieux pour elles. Mais le ministère de la Culture, comme vous l'avez évoqué, et sa définition problématique de la diversité sur ce point, nous sommes d'accord. Le ministère de la Culture, en définissant cette notion de diversité et en lançant des mesures qui sont censées accroître la représentation de cette diversité dans le monde culturel, c'est la puissance du ministère de la Culture. Et cette puissance du ministère de la Culture n'est en rien comparable avec la non-puissance. Peut-être que c'est la nuisance. Les capacités de nuisance et la puissance impliquent une mise à l'œuvre et une capacité de mettre à l'œuvre. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il est parlant, cet exemple de l'Inquisition.
On reprend ces échanges dans un instant, juste après la petite pause musicale. Il est 12h36. Et voici Faye Webster sur France Inter, Come to Atlanta. Question autour de la création artistique aujourd'hui dans le débat de midi avec le commissaire d'exposition Guillaume Desanges, avec Maboula Soumaoro, maîtresse de conférence en études afro-américaines, et avec Isabelle Barberis, maîtresse de conférence en théâtre, auteur de L'art du politiquement correct au PUF.
Le débat du midi, Dorothée Barba sur France Inter.
Une distinction intéressante vient d'être faite tout à l'heure entre la puissance et la capacité de nuisance des associations de lutte contre le racisme qui imposeraient ou non leur vision du politiquement correct. Guillaume Desanges, quel est votre regard là-dessus ?
Non, mais moi, mon regard, il est que d'abord, je crois que dans une sorte de théorie de l'addition, je pense que les discours se sont plutôt multipliés que remplacés. Voilà, pour pas employer un mot aussi.
Ouais, mais
qui a à voir. Oui, mais qui a à voir avec cette question aussi. Et que c'est vrai qu'il y a des nouveaux types de discours, il y a des nouvelles manières de faire. Mais d'abord, qui concernent pas, en tout cas dans mon champ qui est celui des arts visuels et un peu de la performance, qui concernent pas tous les artistes. C'est-à-dire qu'on peut continuer à travailler, je veux dire, avec un travail formaliste qu'on en voit beaucoup dans les institutions et les musées. Donc ça concerne quand même... Non, mais ça concerne peut-être des choses qui vous concernent plus ou qui, moi, me concernent plus que... En effet, je m'intéresse à l'art politique. C'est le lien qu'on a peut-être tous les trois. Mais en tout cas, je crois que la question, elle est pas d'une sorte d'assignation définitive. Elle est que des nouvelles voix se font entendre. Et en effet, par contre, ce qui touche, je crois, tous les artistes, pour le coup, c'est que, et tous les citoyens, peut-être, c'est qu'en effet, maintenant, il y a peut-être des attentions particulières. Alors, on peut parler de censure, on peut aussi le dire par des attentions particulières, par des regards sur des choses qu'on regardait pas avant. Et je crois qu'aujourd'hui, en effet, des artistes, et encore une fois, ça m'intéresse beaucoup quand ils sont de l'autre côté. Il me semble que vous le critiquez aussi, d'ailleurs. Des artistes qui se donnent comme une sorte de vision d'être, résoudre les choses du monde, hein, on va dire. Eh bien, ce qui est intéressant avec ces artistes-là, c'est qu'en effet, maintenant, ça suffit plus et que il y a quelque chose. Alors après, avec parfois de la fureur, parce que aussi il y a des asymétries depuis très longtemps dans l'histoire et que la fureur, des exagérations possiblement arrivent de tous les côtés d'ailleurs, elles ne sont pas nouvelles. Mais par contre, le fait que moi je crois que quand on est artiste aujourd'hui, on cherche pas la paix. Et qu'on n'a jamais cherché la paix et qu'il faut peut-être aussi assumer ce qu'on fait aux États-Unis. Il y a cette expression que j'aime beaucoup dans les milieux des gangsters qui est if you can't do the time, don't do the crime. C'est-à-dire quand on fait un quelque chose, il faut en assumer aussi peut-être parfois des réactions et des responsabilités, même à tort parfois. Il y a des erreurs judiciaires, mais en tout cas aujourd'hui, je pense qu'un artiste, et de tout temps, les artistes qui m'ont intéressé ont toujours travaillé dans un certain régime de la contradiction.
Voilà qui interroge en effet le pouvoir de transgression de l'artiste. Que reste-t-il de la création artistique sans son degré de scandale, de transgression et d'envie de choquer
sans le confort. C'est ça, c'est la remise en cause du confort. Mais je voulais juste revenir sur un point qui a été évoqué par Guillaume Desanges. Je voudrais insister sur le fait que cette critique, si elle est devenue davantage audible aujourd'hui, elle n'est pas récente. les critiques ont toujours existé. On peut retourner des siècles en arrière, et toutes les productions artistiques qui ont, je sais pas, malmené certaines populations ont toujours été critiquées.
Vous voulez dire qu'à l'époque où on n'appelait pas ça du politiquement correct, ça oui, existait déjà.
Et c'était peut-être à des moments où on en avait, où on pouvait se permettre de d'ignorer totalement cette critique. Mais en 2019, on n'a rien inventé. 1919, 1819, 1719, il y a toujours une critique, que ce soit enfin des arts, de l'Occident, de la blanchité, du patriarcat. Voilà. Mais il y a des moments, des concordances, je sais pas, dans l'histoire, qui font que les femmes vont devenir plus audibles, les minorités aussi, minorités sexuelles vont devenir plus audibles, les groupes qui sont racialisés vont devenir plus audibles. Mais ces groupes-là ont toujours
exprimé des critiques.
Mmh. Isabelle Barberis, oui, c'est d'ailleurs pas nouveau. Le théâtre, à partir du XVIIIe siècle, notamment les premières pièces de théâtre en France qui représentaient des personnages noirs, étaient des pièces anti-esclavagistes et qui elles étaient censurées précisément par les autorités pour être anti-esclavagistes. Donc le passé de la culture théâtrale française, c'est quand même moins le blackface que cette tradition de pièces très longue de pièces anti-esclavagistes.
Mais alors, ce que vous appelez, vous, le politiquement correct, la seule différence, c'est qu'on l'entend mieux aujourd'hui.
Alors, ce que j'appelle le politiquement correct, paradoxalement, c'est aussi le politiquement incorrect. C'est-à-dire, c'est un mécanisme à double détente. Dans le premier cas, le politiquement incorrect, il s'agit de choquer la morale bourgeoise. Et donc, ça en appelle à la morale bourgeoise, tout de même. Et dans un second temps, le politiquement correct, en quelque sorte, et le consensus qui entretient son envers et la posture du rebelle chez l'artiste, et bien souvent une posture de synthèse qui est aussi bien malgré son voilà tout à fait politiquement correct. Donc je ne suis pas une partisane du politiquement incorrect, et c'est une expression que j'utilise avec des pincettes.
Bon, enfin, c'est dans le titre de votre livre, c'est, quand même, c'est avec des pincettes en couverture.
C'est dans le titre de
je cite un extrait de votre ouvrage à Isabelle Barberis. Notre souplesse est infinie, nous sommes capables d'entendre que Descartes était sexiste, que Voltaire était un salaud, que Victor Hugo était raciste, Blaise Cendrars un dégueulasse, etc. Nous ne les avons pas vraiment lus, mais il faut trancher pour œuvrer au progrès en marche. Nous avons tant besoin de nous renier pour croire en quelque chose. S'agit-il vraiment de se renier ?
Il s'agit, à mon sens, ma critique, elle est ancrée, ma critique de ces dérives identitaires, je suis là-dessus à peu près d'accord, par exemple, avec ce qu'a écrit Laurent Dubreuil, vient d'une critique du néolibéralisme. Parce que, pour moi, effectivement, ce tournant culturel, plutôt...
anticulturel, plutôt, dites-vous.
Anticulturel est tout à fait soluble dans l'ordre global, dans la mondialisation, qui revient à mettre en concurrence les individus et les groupes les uns contre les autres, et corrobore en quelque sorte ce nouvel état postmoderne macronien qui consiste effectivement à gouverner par la mise en concurrence des uns contre les autres, ce qui donne d'excellents arguments pour casser les services publics après dans un second temps.
Mais relire les œuvres du passé et y voir des stéréotypes, ça, est-ce que c'est appelé à la censure ? Pas forcément.
Ce sont des nouveaux phénomènes de censure. On peut revenir très longuement sur la question de la censure, qui effectivement, par le passé, impliquait une sorte de verticalité de l'organisation de l'État.
Oui, aujourd'hui, le
pouvoir s'exerce de manière occidentale.
Ça, c'est un joli lapsus.
J'étais venue pour ça aujourd'hui. Merci, Madame Barberis.
Je regarde.
L'émission est terminée.
Voilà,
c'est terminé.
Le pouvoir s'exerce de manière horizontale. Donc, il faut tenir compte aussi de ce type d'organisation.
Maboula Soumaoro, dire que Victor Hugo a écrit à certains égards des livres qui véhiculent des stéréotypes racistes, est-ce une manière de renier toute une civilisation ?
Mais pourquoi on ne pourrait pas avoir une civilisation, une histoire culturelle qui serait capable d'être critique envers elle-même ? Ça me fait penser souvent à des attaques que je reçois personnellement en me disant « si vous n'êtes pas contente, rentrez dans votre pays ». Pourquoi on ne peut pas m'envisager en tant que Française qui parle de l'intérieur et qui peut être critique même si elle est Française ? Pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette
déboulonner
demande,
les statues,
voilà,
c'est
cette injonction
ce dont on vous accuse beaucoup, hein.
Voilà, d'amour absolu et sans question. Qu'est-ce que c'est que cette approche des relations humaines et de cette approche de la relation à notre nation, à notre État? On peut poser des questions. Donc si, Victor Hugo, et vraiment je ne suis pas spécialiste d'Hugo, mais je ne suis pas étonnée, on dirait que voilà, on a besoin de cette figure paternelle, donc l'homme qui a traversé le 19e siècle, qui nous a donné, je sais pas moi, les Misérables et je ne sais quoi d'autre. Et qu'il était parfait. Voilà. C'est tout. C'est comme Napoléon, le culte de Napoléon, qui est vraiment très important en France. Certains vous diront, et notamment les personnes issues des territoires
qu'il
d'outre-mer.
Qu'il a rétabli l'esclavage.
Qu'il a rétabli l'esclavage. Oui. Et c'est une réalité. Est-ce que ça l'a empêché de conquérir le reste de l'Europe? Non. Mais il a rétabli l'esclavage. Et il a subi une défaite cuisante en Haïti. Voilà. C'est que l'Europe n'a pas pu défaire Napoléon, mais en tout cas, un peuple d'esclaves en rébellion a défait les troupes napoléoniennes en Haïti. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
On pourrait très bien poser des questions et peut-être refocaliser les images, enfin voilà, réagencer les choses.
Guillaume Desanges, distinguer l'œuvre de l'artiste, hein, finalement, on en revient toujours là?
Oui, enfin, moi, je voulais réagir par rapport à ça, parce que la question d'avoir un regard critique, je pense qu'il a toujours existé, le regard critique. Il est là aujourd'hui, encore une fois, de la part de nouvelles voix, et ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, le problème qui se passe, c'est la question de l'effacement. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on ne critique plus ou qu'on efface. Bah, par exemple, je sais que c'était intéressant. Moi, j'ai visité à Bruxelles, enfin, en Belgique, le musée Tervuren, qui est le musée de un musée qui est vraiment issu de collections coloniale, etc. Et la question était que ils allaient refaire le musée pour essayer d'effacer ce qui était problématique.
Ou peut-être qu'il y a une approche différente. Je viens de lire une tribune, signée par des chercheurs qui se sont rencontrés à Bordeaux récemment pour les rencontres atlantiques et qui prennent l'exemple de l'exposition Le Modèle Noir qui vient justement de se terminer
au musée d'Orsay à Paris.
Et qui a parlé de la recherche qui a été effectuée autour de ces modèles noirs qui n'étaient pas nommés et qui ont mené des investigations pour redonner un nom. Est-ce que ça va changer la nature des tableaux, par exemple, qui ont été exposés? Non, mais peut-être qu'on peut essayer de d'écrire un nouveau récit, ça n'effacera rien.
Exactement, mais la question, évidemment, et je crois que c'est là où il y a les gens, et c'est là où il y a des moments qui parlent de censure, etc., c'est qu'il y a aussi des personnes qui demandent l'effacement des choses. Moi, j'ai cette question de la restitution qui est très intéressante, et moi j'aime beaucoup, alors parce que j'aime bien ce côté un petit peu aussi pervers ou contradictoire d'Achille Mbembe, par exemple, qui dit, mais peut-être il faut pas rendre tout parce que ça va effacer complètement aussi cette histoire, comme si on pouvait solder les choses et qu'il faut vivre avec aussi certaines choses. C'est pour ça que cette question de la critique, je pense qu'elle est très intéressante aujourd'hui, c'est-à-dire remettre en cause les choses, les regarder d'une manière critique différemment parce que les temps ont changé et que on est quand même heureusement quand même l'histoire avance aussi d'une certaine manière, pas d'une seule manière, mais et que aujourd'hui les regarder de manière critique veut pas forcément dire effacer ce qui est gênant ou embarrassant. Et c'est là où il y a des paradoxes dans aussi des contestations du passé.
On peut corriger. On peut corriger.
Je voudrais vous soumettre une réaction très concrète, presque terre à terre, d'une auditrice qui me parvient par courriel. Je suis complètement perturbée par votre débat, dit-elle. J'ai 71 ans. De nombreuses amies africaines m'ont offert des boubous que je porte régulièrement. J'ai une amie à Marseille qui ne s'habille qu'avec des boubous. Est-ce une insulte à mes amies tchadiennes ou béninoises, Maboula Soumaoro?
Les amis de cette dame lui ont offert des cadeaux. Elle est libre. Je pense que ce sont ses amis, ce sont pas ses employés, ce sont pas ses esclaves.
Pas d'appropriation culturelle.
Elle fait ce qu'elle veut. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. On parle bien sûr que les relations et les interactions humaines comptent, mais là on parle de système. C'est pas donc. J'ai des amies africaines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai des amies africaines qui...
Pourquoi se sentait obligé de le préciser, vous voulez
oui,
dire?
Oui, voilà. Puis c'est toujours le côté externe. C'est-à-dire, ça se passe ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Noirs de France, par exemple. Les Noirs de France hexagonale et qui ne sont pas... qui sont des Africains d'origine et qui sont aussi français. Sans remplacer une identité avec l'autre, mais les deux peuvent cohabiter. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, voilà, cette dame de 71 ans qui, au moins, se pose des questions, c'est une bonne chose.
C'est déjà ça.
Est-ce qu'elle est capable de ne pas demander un boubou à quelqu'un d'origine africaine qu'elle va croiser en France hexagonale, ou est-ce qu'elle s'attendra toujours à un boubou, à du mafé, à du piment, ou est-ce qu'elle va laisser la personne en face d'elle exister pour elle-même et sans toujours ce regard.
Vous avez dû lire les uns et les autres les déclarations d'Ariane Mouchkine, qui a été accusée récemment d'appropriation culturelle, également avec une pièce qui racontait au Théâtre du Soleil à Paris l'histoire du Canada. Les peuples autochtones présents dans cette pièce n'étaient pas incarnés par des comédiens issus de ces populations, ça en a choqué certains, la pièce s'est maintenue. Et elle dit ceci, Ariane Mouchkine, la première des censures est notre peur. Être accusé de racisme fait très peur, nos accusateurs le savent et ils en jouent. Isabelle Barbéry, vous êtes d'accord avec
ça ? Oui, on en a un petit peu parlé, j'ai évoqué aussi le contexte socio-professionnel dans lequel ce type de pression pouvait voir son efficacité décuplée. Il y a un exemple aussi, Guillaume Desanges parlait d'effacement, que je trouve assez intéressant, qui est véritablement sur les questions de nominalisme, de nomination, c'est le Bal Nègre, qui suite à donc des démarches du CRAN a été renommé.
CRAN, c'est le, rappelons, le comité
représentatif des associations noires
de France. Et qui a été renommé du nom de la rue, le Bal Blomé. Et ce que j'ai pu remarquer, par exemple, avec mes étudiants, c'est qu'on avait que cet effacement, cette correction, qui était destinée à faire disparaître le mot nègre, qui dans une épistémée, l'épistémée de l'époque n'avait pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui, correspondait aussi à un effacement historique, précisément, des enjeux véritables de l'antiracisme. Puisque le bal nègre, son histoire, le cadre effectivement d'émergence d'artistes, de chroniques qui ont pu paraître dans la presse, c'est un cadre, c'est un incubateur extrêmement intéressant. Et le fait de faire disparaître ce terme-là fait aussi disparaître cette histoire-là et recouvre le bal nègre, une sorte de soupçon de racisme intrinsèque, alors que ce n'était historiquement pas le cas.
Parce que le mot nègre, aujourd'hui, et les mots évoluent comme la langue évolue. Des termes qui étaient utilisés au 15e siècle n'existent plus aujourd'hui au 21e siècle.
Aimé Césaire l'employait, vous répondra-t-on ?
Exactement, en 1939, le cahier d'un retour au pays natal. Depuis, enfin, nous sommes aujourd'hui en 2019, ce qui était, et en plus, Aimé Césaire l'a utilisé pour retourner le stigmate. On ne peut pas utiliser cet argument, il ne tient pas. Aujourd'hui, dire nègre, en 2019, c'est péjoratif. Mais c'est à l'image de plusieurs termes qui évoluent, parce que nous parlons une langue qui est vivante et qui évolue.
On est bien sûr complètement d'accord, mais s'il ne s'agissait pas d'utiliser cet adjectif comme ça de manière inopinée, mais précisément de réutiliser le nom historique d'un établissement.
Et comment fait-on pour faire apparaître cette évolution ? Je pense à un autre lieu culturel qui s'appelle la colonie Barré à Paris, dans le 10e arrondissement,
où entre en jeu.
On a repris le terme Kaderatia, l'artiste Kaderatia a repris le terme colonie, puisqu'on ne peut pas effacer et que la colonisation existait, et graphiquement, ce terme est barré. Donc il faut faire quelque chose, on ne peut pas juste reprendre sans agir.
Mais c'était probablement pas cette renomination qui était la bonne.
Oui, alors pour cette question, là encore, j'ai qu'une opinion, donc c'est pas très intéressant. Par contre, je voudrais revenir sur la question des artistes, et d'Ariane Mouchkine. C'est-à-dire que je trouve là, pour le coup, il y a quelque chose qui est flagrant, c'est que les artistes en prennent beaucoup aujourd'hui. Alors que l'institution.
Peut-être faut-il le préciser que c'est un peu injuste à l'égard de Mouchkine, dont on ne peut pas accuser.
Oui, c'est pas la question,
politique.
Mais aujourd'hui, les artistes payent parfois le prix aussi d'insuffisance, des institutions artistiques et culturelles depuis des décennies. Et qu'aujourd'hui, quand il y a une exaspération sur l'appropriation culturelle, je sais qu'aux États-Unis, il y a eu des spectacles. Où voilà, une coiffe des natifs américains est devenue intolérable, comme si on n'avait pas le droit. Mais c'est pas uniquement cette question-là, c'était la première fois que dans un musée rentrait un symbole comme ça des natifs américains, et c'était quelqu'un qui n'était pas natif américain qui le prenait. Donc c'est aussi cette question, et je crois que c'est intéressant parce que les institutions dont je fais partie, parce que je suis un commissaire d'exposition, je suis pas artiste, souvent, évidemment, corrigent un peu les choses, se dédouanent, et c'est l'artiste quand même qui prend beaucoup, alors que il faut pas oublier aussi l'énorme, presque scandale des sous-représentations et des invisibilités habité pour le coup dans l'institution depuis longtemps, dont les artistes aujourd'hui font les frais, et souvent malgré eux d'ailleurs.
Mais je suis d'accord avec vous, mais seulement partiellement malheureusement, parce que c'est vrai que les artistes, je suis tout à fait d'accord avec votre raisonnement, sont, on va dire, la partie visible du iceberg, et comment dire, les institutions derrière peuvent paraître comme protégées. Seulement, les artistes ont bénéficier de ce système.
Et continue, évidemment.
Voilà. Allez, on approche de la fin de l'émission. J'ai une dernière question à poser à mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
Question rituelle dans cette émission. Sur quel sujet avez-vous changé d'avis? On commence avec vous, Isabelle Barberis.
Ah, on commence avec moi.
Pas chouette.
Bien, vous m'avez fait passer une soirée
une
hier,
nuit blanche.
Quasiment pour essayer, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment de changer d'avis, sauf que je me formule pas tellement en termes d'avis, plutôt d'analyse. Je vais répondre. J'ai essayé de j'ai changé d'avis sur la révolution.
Ah.
J'ai changé d'avis sur la Révolution. Alors, depuis, effectivement, que notre actuel président de la République a écrit un livre qui s'appelait Révolution. Mais depuis aussi que j'ai commencé à prendre conscience, en fait, que le post-marxisme, qui est ce marxisme soluble dans la mondialisation, on est aussi devenu l'allié. Donc, je répondais, j'ai changé d'avis sur la Révolution.
Voilà qui méritera encore une émission entière. Guillaume Desanges, même question.
Alors moi, je vais répéter une phrase que j'ai dit il y a pas très longtemps dans une conférence, que j'ai beaucoup changé d'avis sur l'art contemporain. Et je disais que j'avais longtemps cru qu'il se passait des choses incroyables sous les vêtements, sous les jupes de l'art contemporain, et qu'aujourd'hui je m'aperçois qu'il n'y a rien à voir, mais que de là la vue est extraordinaire.
Vous en revenez. Alors, Maboula Soumaoro.
Alors, je vais faire un clin d'œil à Madame Barberis. Je vais commencer ma phrase par « en tant que ». En tant que.
Ça, c'est l'entanquisme. Voilà.
En tant que. L'entanquisme, enfin, ça pourrait aussi être, on va dire, faire tomber les masques pour tout le monde. Se situer, c'est aussi inviter toutes les autres personnes à se situer pour qu'on puisse converser honnêtement. Donc, en tant que femme noire française d'origine africaine, fille d'immigrés, j'ai changé d'avis sur le mythe républicain, l'universalisme, et l'universalisme et l'universel n'existent pas. Ma vie me l'a démontré.
Peut-être changerez-vous encore là-dessus.
Encore,
la vie.
Oui, mais j'y ai cru.
Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. L'art du politiquement correct, c'est au PUF, Isabelle Barberis. Votre exposition, Guillaume Desanges, Contrevent, solidarité ouvrière, étudiante et paysanne, c'est à Saint-Nazaire jusqu'au 29 septembre. Maboula Soumaoro, vous serez l'invité, je crois, de Lorraine Bastide dans Les Savantes.
Voilà, et le triangle et l'hexagone, mon essai, va paraître au début 2020 chez La Découverte.
Très belle journée à tous.